Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Des parents et des élèves dans la rue hier lundi devant le cabinet du ministre de l'EPST en colère. Les parents veulent que le gouvernement les laisse assurer la prise en charge des enseignants comme avant pour que les enfants étudient. Ils n'en peuvent plus car les élèves vont tous les jours à l'école mais n'étudient pas. Incursion des militaires rwandais sur le sol congolais hier lundi dans les territoires des Nyiragongo. Les FARDC promet de saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie pour élucider les mobiles de cette incursion. C'est le porte-parole des opérations Sukola 2, le colonel Guillaume Ndjike Kaiko, qui l'a confirmé. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le professeur Bob Kabamba. Il revient sur l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la CENI. D'après lui, le choix de Denis Kadima ne faisant pas l'unanimité, même au sein de la majorité au pouvoir, causera certainement l'implosion de l'Union sacrée. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. À Kinshasa, les parents d'élèves n'en peuvent plus de voir leurs enfants se rendre à l'école pour ne pas étudier. Hier lundi, nombreux d'entre eux, accompagnés par des élèves, notamment du lycée Boussangani, sont allés exprimer leur colère devant le ministère de l'EPST dans la commune de la Gombe. Ces parents demandent au gouvernement de les laisser assurer la prise en charge des enseignants comme avant pour que leurs enfants étudient normalement. Célestine Massoudi a suivi cette marche pour nous. Suivez ce reportage.
Ils étaient nombreux devant le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, chantant et manifestant leur colère et mécontentement de voir leurs enfants partir en tourisme chaque matin. Trois semaines après la rentrée scolaire, aucun professeur ne veut entrer dans la salle de classe pour donner cours. Les parents trouvés sur place demandent que les autorités les laissent recommencer à payer le frais scolaire et permettre aux enfants de bien étudier car la gratuité ne réussit pas.
Nous déplorons puisqu'en fait, ça fait des semaines, on envoie les enfants à l'école, ils étudient pas, il n'y a rien du tout et ça fait pas bien. Ça veut dire que le gouvernement est irresponsable. Qu'on revienne à la case de départ, qu'on remette tout comme ça a été avant, que les parents continuent à cotiser et en même temps, l'État aussi trouve des mécanismes comment avoir les moyens, effectivement, pour résoudre ce petit problème dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans.
De leur côté, les élèves disent être fatigués de venir tous les jours à l'école sans étudier. Ils demandent aux autorités de l'EPST de répondre aux préoccupations des enseignants.
On se sent très mal, nous les élèves. On vient chaque jour, on ne fait rien, on perd notre temps, on est là, on n'étudie pas. Donc on se sent très mal. On demande aux autorités de faire quelque chose pour nous. Parce que là, vraiment, on n'en peut plus payer nos professeurs. Et aussi, ce sont des parents, ils sont des enfants, non? Non, non, ma.
Ça m'énerve parce que c'est pas normal. C'est pas normal, il faut qu'on paye les enseignants.
À cet effet, le ministre Tony Mwaba a initié rapidement une descente sur 6 écoles catholiques pour demander aux enseignants de reprendre la craie. Selon lui, le syndicat des enseignants des écoles catholiques lui a notifié une suspension des grèves, chose que les enseignants n'ont pas acceptée. Ces derniers réclament à présent la démission du ministre.
Notez qu'une autre manifestation des parents et des élèves a également eu lieu toujours hier lundi matin devant la maison communale d'Ngiringiri, ici à Kinshasa, pour réclamer les débuts effectifs des cours. Ils étaient plus de 200 venus notamment de l'épée de Ngiringiri, d'après le bourgmestre Jérémy Douémé qui a échangé avec eux. Même mouvement à Beni, toujours hier lundi, une foule d'élèves a envahi la mairie de cette ville avec presque le même objectif, réclamer l'effectivité des cours dans toutes les écoles publiques et non de manière perturbée comme c'est le cas actuellement. Le maire de Beni qui a reçu leur mémorandum a promis de le transmettre à sa hiérarchie. Marc Maroufimbo nous raconte.
Tous vêtus en uniforme scolaire, ces élèves étaient en face du maire de la ville de Beni tôt ce lundi matin pour revendiquer l'effectivité des cours dans toutes les écoles publiques et conventionnées après avoir perdu 2 semaines sans étudier. Ils ont déposé le mémorandum contenant leurs revendications aux responsables de la sous-division de l'EPST Beni, puis une copie au maire de la ville. L'un d'eux, Johnson Katiamuhiwa, parle ici des recommandations qui y sont formulées.
La première recommandation, c'était de demander au gouvernement, comme c'est son rôle, de rétablir la situation de la reprise des cours dans toutes les écoles publiques et conventionnées, dans 48 terres bien sûr. La recommandation secondaire, c'était celle de faire l'effectivité des cours sans faille ni coupure dans les moments qui restent, comme nous venons de perdre déjà 2 semaines sur cette année qui est à court.
Le maire de la ville de Beni, qui a reçu personnellement ce mémorandum, a appelé les élèves au calme. Le commissaire principal Narcisse Mouteba Kachal a promis de transmettre en urgence les doléances de ses élèves à sa hiérarchie afin que solution soit trouvée à leur cri. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Entre-temps, Sud Kivu, notez cette réaction du président provincial Sud Kivu 2 de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo à Napeko en rapport avec la poursuite de la grève des enseignants dans les écoles publiques d'Uvira. Il déplore la décision prise hier lundi par l'intersyndicale de la province éducationnelle du Sud Kivu 2. Plus de 200 prestataires de l'EPST, parmi lesquels des représentants des écoles publiques, les réseaux du CIECO et du SINECAT ont pris part à cette rencontre qui s'est tenue à l'Institut Mwanga d'Uvira. Le président de la Napeko Ouvira lance un appel au gouvernement qui l'invite de se pencher sur cette question. Patient Sindabagoma Ifondo est au micro de Fiston Ngoma.
Les conséquences de la grève, c'est du meurtre, c'est du calvaire pour nos enfants, parce que les ayants droit, les dirigeants de ces pays ont déjà orienté leurs enfants dans les écoles privées. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne cessons de réitérer nos supplications à l'endroit des enseignants, leur demandant d'user d'une conscience professionnelle et mettre l'enfant au centre d'intérêt pour qu'il reprenne le chemin de l'école et que tous ensemble nous puissions les accompagner pour réclamer leurs droits, parce que leurs droits sont fondés. Nous ne pouvons plus jamais reprendre la charge de la prime. Trop, c'est trop. 27 ans, nous avons payé la prime. La Constitution reconnaît la gratuité et le président en exercice prône cette gratuité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la troisième semaine depuis que les enfants sont dans la rue, depuis que la grève a commencé. Nous demandons au président de la République qu'il s'assume avec son gouvernement et qu'en dehors de 3 jours, qu'on trouve solution et que d'ici là, nous voyons nos enfants reprendre le chemin de l'école.
Dans la province du Maniema, 486 maisons écroulées, des bâtiments scolaires et plusieurs personnes blessées. C'est le bilan d'une pluie accompagnée d'un vent violent survenu le jeudi 14 octobre dernier à Wamaza, chef-lieu du secteur de Bébé Wamaza, en territoire de Kabambari. L'information a été rendue publique hier lundi à travers une motion incidentielle introduite à la plénière de l'Assemblée provinciale par les députés provinciaux Thierry Badisungu Kamwanga. Ce dernier a également exprimé sa colère contre, selon lui, les retenues et les retards constatés dans le paiement des salaires des enseignants par la Caritas Kasongo. On écoute le député Thierry Badisungu au micro de Florence Kizalunga.
Le bilan de cette catastrophe fait état de 486 maisons écroulées, dont 136 en tôle et 360 en paille. Les bâtiments scolaires, c'est le cas de l'EPE Kanyimanyima, Kindambwe, Wivin, Amani, de l'Institut Kindambwe et j'en passe. Plusieurs personnes ont été blessées, dont 8 seulement se trouvent actuellement internées au centre de santé de référence de Wamaza. Ce qui est étonnant, c'est le fait que jusque-là, aucune assistance du gouvernement, tant provincial que national, et encore moins des ONG humanitaires, n'est signalée. Le deuxième problème, les enseignants et agents des bureaux gestionnaires payés par la Caritas Kasongo ont constaté, lors de la paie du mois de septembre 2021, la retenue de 3500 francs congolais sur leur salaire au motif des frais de tenue de compte au moment où aucun enseignant payé par la Caritas Kasongo ne détient un compte salaire. Ils sont payés manuellement.
Les députés provinciaux Thierry Badisungu plaident pour une assistance rapide aux victimes de cette catastrophe naturelle et réclament des explications à la Caritas Kasongo sur la paye des enseignants. Autre nouvelle, au Nord Kivu, le secteur opérationnel Sukula 2 confirme l'incursion des militaires rwandais sur le sol congolais hier lundi dans la matinée. C'est entre les villages Kitotoma et Kabuhanga, un groupement Buhumba, territoire de Nyiragongo. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole des opérations Sukula 2 indique que l'armée congolaise promet de saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie pour élucider les mobiles de cette incursion. Le colonel Guillaume Ndike Kaiko confirme également que les FRDC ont saisi une armée des militaires rwandais et enregistré des pillages perpétrés par ces derniers pendant leur retrait. Un extrait de sa déclaration choisi par Sifamaguru.
Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sukula 2 confirme l'incursion des éléments des RDF sur les sols congolais. Ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF.
De son côté, la société civile de Nyiragongo dénonce cette nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais qui n'en est pas à sa première tentative, selon elle. Cette structure citoyenne déplore aussi la porosité des frontières du côté congolais, ce qui favoriserait de tels incidents. On écoute Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo, qui expliquait la situation sur place hier lundi.
La situation reste tendue dans le territoire de Nyiragongo suite à l'incursion de l'armée rwandaise, précisément à Kitotoma, où il y a eu un fil des militaires rwandais qui a été observé par la population. Au niveau de Kasivi, même chose. Au niveau de Kabuhanga, il y avait presque quatre lignes. Et ces militaires rwandais étaient armés. Ils ont entré à part des tirs en armes légères, mais aussi par des tirs en armes automatiques. Ce qui a conduit au déplacement rapide de la population. Et cette population ont pris le chemin maintenant vers Rutshuru, d'autres ont pris la direction des combats. Ça fait plus de mois maintenant que la société civile est tentée de dénoncer presque la porosité de son cher au niveau de Kibumba, donc à partir de la borne de 10 jusqu'à la borne de 21, où vous pouvez observer vous-même à une distance de 10 km, vous allez trouver des militaires par des éléments.
Du côté de Kigali, la toute première réaction officielle autour de cette affaire vient de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Dans un tweet, Vincent Karega écrit, je le cite, « Rien à éclairer car il n'y a pas d'ombre. Les mensonges d'incursion, d'occupation et pillage en un clin d'œil seront vite estompés, faute de preuves. Le fait est très mineur autour de la poursuite des fraudeurs. Le reste, c'est du buzz, d'une tension montée de toutes pièces. » Fin des citations. Parlons santé à présent. Le cumul des cas de la maladie à virus Ebola est passé hier lundi de 1 à 5 cas confirmés, dont 3 décès depuis la déclaration de l'épidémie le 8 octobre dernier à Beni. C'est le médecin chef de zone de santé de Beni et coordonnateur du comité local des ripostes qui livre cette information. Le docteur Michel Kassere Kato-Salissana indique que les équipes de ripostes sont à pied d'œuvre pour tenter de couper la chaîne de transmission de la maladie. Et pendant ce temps, la vaccination des personnes contact se poursuit alors que l'OMS et l'UNICEF ainsi que d'autres partenaires dans la riposte continuent à apporter leur soutien pour endiguer le virus. Alors, face à la maladie des virus Ebola qui refait surface dans la région de Beni, le responsable du consortium des confessions religieuses appelle les chefs de toutes les communautés religieuses à se lancer dans la sensibilisation de leurs communautés respectives dans la lutte contre cette pandémie. Pour le bishop Janvier Baraka, il redouble les efforts de sensibilisation pour vaincre Ebola. On l'écoute au micro de Marc Maroufibo.
Je demande à mes frères, à mes condisciples de sensibiliser, de passer des messages dans toutes les églises, dans toutes les communautés, dans les mosquées, que chacun de nous puisse être à mesure de parler à toute la communauté qu'il dirige, que cette fois-ci, cette maladie, ce double combat auquel nous faisons face risque de nous emporter et qu'il faudrait battre le fer quand il est encore chaud. C'est maintenant qu'il faut lutter et non pas attendre lorsque les gens seront en train de mourir qu'on commence à combattre. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les fidèles, nous voulons leur demander de suivre toutes les indications, toutes les orientations, les directives qui leur seront donnés par leur encadreur, leur berger, afin de nous éviter le pire.
Justice, la portée des dispositions de la loi foncière compte tenu des abus des conservateurs des titres immobiliers et des juges a été au cœur des réflexions du premier président de la Cour de cassation. C'était à l'occasion de l'audience solennelle marquant la rentrée judiciaire de cette cour hier lundi ici à Kinshasa en présence du président de la République. À cet effet, David et Christophe Mukendi a appelé les juges sur l'application stricte de la loi. Reportage Jeff Ngoy.
L'application pure et simple de la loi dans le règlement des conflits fonciers est la seule fonction du juge, selon David Christophe Mukendi.
Nous pensons que le juge congolais, ultime recours du locataire pour connaître du contentieux du contrat de location, ne doit pas trancher celui-ci en versant dans des manœuvres tendant à cautionner les abus du conservateur de titres immobiliers en constatant froidement la résiliation unilatérale opérée par ce dernier.
Parlant de la répression des infractions flagrantes en droit congolais, le procureur général Victor Mumba propose la relecture du code pénal pour rendre certaines infractions imprescriptibles à cause de leurs conséquences sur les finances publiques. Quelles sont ces infractions?
L'économie nationale, l'environnement, les mœurs. À ce titre, les infractions de détournement des deniers publics, de corruption, deviendraient imprescriptibles, et ce pour éviter qu'elles ne demeurent impunies lorsqu'on ne peut pas poursuivre leurs auteurs en procédure de flagrance.
L'appareil judiciaire congolais ne rassure plus de haut en bas, plaide le bâtonnier national Matadi Wamba.
Avons-nous cependant une bonne justice? Tout le monde ou presque tire à boulet rouge sur notre justice.
Le président du Conseil de l'Ordre des avocats rappelle ainsi la force du droit et le respect des lois.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, le premier ministre congolais Anatole Coliné Makoso a lancé hier lundi une opération coup de poing de 45 jours afin d'intensifier la lutte contre la propagation de la COVID-19 dans le pays et réduire l'impact d'une troisième vague. L'opération coup de poing devra agir efficacement sur sept urgences dont la première est la vaccination, selon le premier ministre Anatole Coliné Makoso.
L'invité.
Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, analyste politique, est notre invité dans cette édition du journal. Il pense que le choix de Denis Kadima ne faisant pas l'unanimité, même au sein de la majorité au pouvoir, causera certainement l'implosion de l'Union sacrée. Le professeur Bob Kabamba s'entretient ici avec J.R. Lungembo. Suivez.
Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, on attend que le président signe l'ordonnance pouvant investir Denis Kadima, qui devra succéder à Corneille Nanga. Si le chef de l'État le fait, quel avenir pour la RDC?
Oui, vous devez savoir que lorsque l'on parle du processus électoral, un processus électoral, ça veut dire toute leur vie qui semble se dessiner par rapport à un processus électoral, puisque c'est leur objectif de pouvoir participer aux élections, de pouvoir les gagner. Alors pour ce faire, un tel processus, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle une espèce de consensus pour qu'il y ait une espèce de légitimité par rapport à tout le cheminement qui doit être fait jusqu'à l'acte final, qui est l'acte final de déposer le bulletin dans l'urne et d'avoir les résultats provisoires et après les résultats définitifs. Et donc, ce processus a besoin de crédibilité. Puisque ce projet n'a pas de crédibilité, alors là, on risque de revenir de contestation en contestation, et que lorsqu'on commence les contestations bien avant que le processus ne soit engagé, je pense que ça serait mal parti pour 2023.
Donnez-vous raison à ceux qui estiment que le pays va replonger dans le scénario d'un processus électoral tendu à l'horizon 2023.
Oui, tout à fait, parce que lorsque l'on regarde déjà les déclarations des uns et des autres que je suis vu sur Radio Capi par rapport à tous les acteurs, d'abord les acteurs politiques, ce qu'ils ont dit, et ensuite, quand je dis acteurs politiques, c'est par rapport au champ politique que nous connaissons, d'une part l'Union sacrée pour la nation, d'autre part la Mouka, et l'OFCC, on voit bien très clair, qui conteste le processus. Et lorsqu'on regarde aussi du côté de la société civile, dans sa grande diversité, là aussi, les contestations vont commencer. Or, nous savons tous que ce sont des parties prenantes assez importantes dans un processus, et que s'il y a déjà des contestations dès le départ, donc on pense que le processus est mal engagé.
Ces choix ne font pas, pour autant, l'unanimité, même au sein de la majorité, au pouvoir. Et selon certains observateurs, ça pourrait précipiter une implosion de l'Union sacrée, avec d'abord les partis de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. L'autre groupe qui avait déjà manifesté son mécontentement, c'est l'UNC de l'ancien directeur des cabinets Vital Kamerhe. Alors qu'en dites-vous?
Et alors, lorsqu'il y a mécontentement, il y a divergence par rapport aux règles du jeu, et là effectivement on risque d'arriver à une certaine implosion de l'Union sacrée. Il va y avoir des groupes qui ne vont pas se retrouver dans ce processus et qui vont essayer de trouver d'autres chemins pour espérer arriver à leur objectif qui est des élections et aussi participer au pouvoir.
Ne sommes-nous pas dans un cas de jurisprudence, car le contexte d'entérinement de Denis Kadima ressemble à celui des Ronsard, dont les chefs de l'État d'ailleurs avaient rejeté l'investiture au travers une correspondance adressée en son temps à Janine Mabunda, la correspondance qui circule actuellement à travers la ville. Est-ce que nous ne risquons pas de nous retrouver dans les mêmes scénarios?
Oui, quand vous lisez effectivement ce courrier, vous sentez bien qu'au moment où le président de la République avait pris cette décision, c'était aussi dans un souci justement de consensus pour qu'il n'y ait pas un processus qui va commencer avec déjà des problèmes. Et donc on se retrouve presque dans les mêmes conditions où effectivement ce processus est au même niveau, malheureusement au même niveau que celui qu'il y avait l'année passée. Et donc on va voir un peu ce qui va sortir un peu de la décision du chef de l'État, mais j'ose croire quand même que par rapport à tout le contexte tel qu'il est en train de se définir, je pense que en tant que garant des institutions, du fonctionnement des institutions, il prendra la bonne décision qui sera en tout cas de pouvoir arriver à ce qu'il puisse y avoir un consensus. processus autour des animateurs de la CENI. Et puis, il faut bien savoir que lorsqu'on parle de les élections, les animateurs, ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie de tout le processus. Il y a aussi la justice, il y a aussi les parties prenantes, comme on vient de le dire. Et tout ça doit se caler dans ce qu'on appelle un calendrier, avec des délais qui sont des délais constitutionnels et des délais légaux. Et que lorsqu'on regarde effectivement que le délai tel qu'ils sont faits, même si on est animateur d'une grande expérience, d'une grande expertise au niveau international ou même au niveau national, il sera pratiquement véritablement difficile de pouvoir arriver à combler d'abord le retard et ensuite difficile de pouvoir convaincre que l'on va aller directement vers un processus apaisé et transparent.
Est-ce qu'on peut dire que finalement l'Assemblée nationale, comme j'ai ouï entendre auprès d'un député, n'a fait que déplacer la pression qu'ils avaient de la communauté internationale et même de la communauté nationale?
Oui, alors effectivement, vous avez remarqué qu'il y avait quand même un balai diplomatique international qui était même assez intense. Il n'y avait pas que ici au niveau de Kinshasa. Il y a aussi dans d'autres capitales, non seulement africaines, mais aussi des capitales occidentales, qui ont essayé justement que l'on puisse revenir à la raison, entre guillemets, pour arriver à avoir ce consensus. Et alors, n'oubliez pas non plus qu'il y a eu quand même l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a demandé à la CENI, à l'Assemblée nationale, de pouvoir poursuivre, entre guillemets, le processus de choix. Donc, que des animateurs. Et effectivement, lorsqu'on regarde effectivement la pression qu'il y avait au niveau de l'Assemblée nationale, cette pression maintenant va se déplacer effectivement, c'est-à-dire on se débarrasse du canard que l'on va maintenant du côté de la présidence, et la pression effectivement va s'accentuer du côté de la présidence.
Merci professeur.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.